BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. On consacre à l'avenir des blockchains et des cryptos 25 minutes chaque semaine. Le vendredi, ce sont les pros des cryptos. Owen Simonin nous accompagne. Bonjour Owen.
Bonjour.
Sa chaîne YouTube, votre chaîne YouTube, Asher, et vous êtes à la tête de Meria. Claire Balva aussi nous accompagne en plateau chaque vendredi. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Ravi également Claire de vous retrouver, experte crypto indépendante. Et puis Vincent Bois aussi est avec nous et il a le sourire parce que le Bitcoin monte aujourd'hui. Les marchés actions baissent mais le Bitcoin monte. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Analyste technique d'IG. Une séance d'ailleurs à l'image de la semaine, puisqu'aujourd'hui, alors que les marchés actions reculent nettement, l'or monte et le Bitcoin aussi. On est actuellement à plus de 26 000 $ à nouveau sur le Bitcoin. Un Bitcoin qui, en quelques jours, a repris 30% d'un point de vue technique. Est-ce que vous estimez que ce rebond est amené à se poursuivre, Vincent?
Alors techniquement, c'est vrai que c'est propre, c'est très beau. On a rebondi sur nos 20 000 $, hein, ce niveau psychologique majeur, et on est en train de tenter ce maintien dont on parlait il y a plusieurs semaines déjà, au-delà des 25 200. Plusieurs échecs depuis le début de l'année, déjà auparavant également l'année dernière, et donc un niveau psychologique important. Il faut dépasser ce niveau. On est en train de tenter ce dépassement, ce qui permettrait d'aller sur la prochaine zone, qui est plutôt vers les 28 500 $. Donc, au niveau technique, c'est plutôt très positif. En revanche, certes, le marché traditionnel est en train de corriger, mais on voit quand même que les valeurs technologiques ont une évolution qui est semblable à celle du Bitcoin. Et les nouvelles ici ne sont pas excellentes. Donc au niveau technique, très favorable, ce qui peut permettre, si on se maintient au-delà des 25 200, d'aller chercher les 28 500. Mais attention tout de même avec ces risques qui sont toujours présents et un retour sous ces 25 200, eh bien, invaliderait pour le moment l'accélération haussière et on pourrait revenir sur ces niveaux, sur ces 21 400, voire les 20 000 $.
Alors effectivement, sur la semaine, le Bitcoin aura largement progressé, l'or, l'once d'or aura largement progressé, et Nasdaq également. Et ce qui est frappant sur la séance d'aujourd'hui, c'est que le Bitcoin, lui, continue de progresser, contrairement au Nasdaq. Le Nasdaq recule aujourd'hui, mais ça n'empêche pas le Bitcoin de poursuivre son rebond. On va en parler, bien sûr, avec nos pros des cryptos dans un instant. Sur l'Ether, on est à 1 716 $ actuellement. Même question d'un point de vue technique. Est-ce que ce rebond, on garde sous le pied, quoi, pour se prolonger?
Alors oui, c'est vrai que l'Ether pour le moment performe un peu moins. On le regarde si on suit ETH-BTC, hein, c'est comme une paire de devises, mais avec les crypto-monnaies, eh bien, on voit que depuis ce rebond, l'Ether est en sous-performance. Et on le voit au niveau technique, auparavant, eh bien, l'Ether s'était plutôt mieux maintenu. On n'était pas allé chercher de nouveaux plus bas à la différence de Bitcoin après notamment STX. Mais ici, le retour haussier est plus timide. Hein. On a rebondi sur le haut 1 430 $, qui est l'équivalent des 20 000 $ sur le Bitcoin, ce niveau psychologique majeur de l'ancien plus haut historique. Mais on n'arrive pas à dépasser les 1 730. 1 730 $, c'est l'ancien support, c'est un niveau important. Au-delà, si on parvient à le dépasser, pour le moment c'est difficile, on va chercher probablement les 2 000 $. Mais pour les mêmes raisons que Bitcoin, on va tout de même surveiller avec attention. Un échec, eh bien, c'est un probable retour et un probable nouveau test des 1 430 $.
Merci Vincent. Vincent Bois en direct depuis IG avec nous. On rappelle à tous ceux qui nous suivent que même quand les cryptos montent, il ne faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Évidemment, ce marché reste très volatile et spéculatif et on le dit chaque semaine. Et on va d'ailleurs en parler à nouveau avec nos pros des cryptos qui sont là, Claire Balva, Owen Simonin. La semaine dernière, on avait déjà parlé ici des difficultés des banques qui financent l'univers crypto, notamment Silvergate. Depuis, deux autres banques se sont retrouvées en difficulté, Silicon Valley Bank et Signature. Ça a eu un impact significatif hein, sur le cours des stablecoins, en tout cas du stablecoin de Circle et Coinbase, c'est l'USDC. Comment cette tempête sur un coin supposé stable, un stablecoin, l'USDC, comment cette tempête, Owen, s'est-elle déroulée?
Ça a touché principalement l'USDC, qui est le stablecoin de Circle, de Coinbase du coup, qui est connu en plus pour être l'un des plus transparents, l'un des plus régulés, l'un des plus robustes. Et c'est pour ça que ça a fait beaucoup de bruit dans l'écosystème crypto. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un stablecoin, pour être émis sur la blockchain, il doit avoir une réserve de valeur en banque ou en institution centralisée. En l'occurrence, il y avait 3,3 des 43 milliards de réserves de Circle qui étaient chez Silicon Valley Bank. Voilà pourquoi, quand on apprend qu'il y a une mise en faillite au début du week-end et on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe, les gens font un calcul rapide et se disent « Ok, peut-être qu'on a perdu une partie des réserves de l'USDC, pourquoi est-ce qu'il resterait à 1 $ si une partie de la réserve, elle, peut être perdue ?» Encore une fois, on était sur un peut-être perdu, on ne savait pas ce qui allait se passer pour la Silicon Valley Bank, mais naturellement, panique, et c'est le marché secondaire qui, lui, commence à vendre en excès, et naturellement, à ce moment-là, Circle se doit de rajouter de la liquidité, de remonter de la liquidité bancaire. Mais on est en week-end. Ils ne peuvent pas remonter de la liquidité bancaire pour pouvoir racheter la supply et échanger un pour un le stablecoin contre le dollar. Et donc, le marché secondaire a paniqué et ça a poussé l'USDC à descendre jusqu'à 89 cents, 11% sur le stablecoin le plus, entre guillemets, régulé et sécurisé du marché.
Ah oui.
En parallèle de ça, il faut savoir que le DAI, qui est un stablecoin semi-décentralisé, détient 50% de sa réserve en USDC. Donc si l'USDC dépegue et perd une partie de sa parité, le DAI a lui aussi perdu une partie de sa valeur, un peu moindre du coup, mais ça l'a quand même affecté, jusqu'à évidemment ce que Coinbase communique en disant que quoi qu'il arrive, début de semaine, il réouvrirait les vannes et il permettrait d'échanger un pour un. Donc là, ça a tout de suite repris un peu de valeur, on s'est rapproché des 96 cents et... Évidemment, l'annonce du régulateur FBIC et également après consultation du président des États-Unis, comme quoi la Fed allait couvrir et allait prendre en main cette situation, ce qui a permis à l'USDC de retrouver la parité avec le dollar.
Vous inquiétez pas, maman est là, hein, la réserve fédérale américaine est là. Depuis quelques jours, du coup, l'USDC a retrouvé sa parité avec le dollar. Vous considérez, Claire, que la tempête est passée ?
Pas nécessairement, parce qu'on le voit dans le domaine des établissements financiers, on n'est pas encore sûr que la contagion se soit réellement arrêtée. On parlait tout à l'heure des cours de bourse sur les banques. On a vu un moins 18% sur Société Générale cette semaine, un moins 16% sur BNP. Donc on voit bien que le secteur financier traditionnel et bancaire est encore très affecté par ces mises en faillite. Et même si les autorités nous disent il n'y aura pas de problème, ben en réalité, on le voit sur les marchés, il y a quand même des gros doutes et on n'a pas de garantie aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'autres faillites à la suite de celle-ci. Maintenant, dans l'écosystème crypto, ce qu'on voit, c'est que les grandes plateformes d'échange ont pris conscience de ce risque de dépendance à la finance traditionnelle. Et on a d'ailleurs vu des annonces dans les dernières semaines qui montrent que ces acteurs-là se positionnent eux-mêmes, investiguent finalement la finance traditionnelle pour éviter de dépendre d'acteurs externes qui risqueraient de faire faillite. Donc on a vu par exemple Coinbase qui a racheté One River Asset Management, donc qui va avoir sa propre unité de gestion d'actifs. Et on a vu les annonces de Kraken aussi qui souhaite devenir carrément une banque pour pouvoir, alors bien sûr, avoir des synergies avec leurs propres activités, mais même aussi proposer une banque à d'autres entreprises, des plus petites entreprises crypto qui n'en trouveraient plus aux États-Unis suite aux faillites de Silvergate et de Silicon Valley Bank.
Oui, donc on a là l'écosystème crypto qui se retrouve éclaboussé par une partie du système bancaire et pas l'inverse. C'est voilà.
C'est... Exactement.
et c'est fou parce qu'il y a eu beaucoup d'humour là-dessus en disant attendez, vous êtes en train de dire que une seule faillite d'une banque centralisée peut affecter l'un des plus gros stablecoins qui aurait pu affecter à lui seul toute la finance décentralisée. C'est vrai. Et donc, il faut être capable de se le dire aussi. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, car crypto ou pas crypto, il y a des corrélations avec le monde traditionnel, on le sait, avec les marchés financiers. Et également, d'un point de vue technique et mécanique, il y a de vrais effets d'échelle et systémiques qui existent.
Ça donne d'autant plus de sens aux annonces qui ont été faites par l'équipe qui gère le DAI, l'équipe de MakerDAO, de limiter leur dépendance à un seul stablecoin, que sera l'USDC, mais quel que soit le stablecoin dont on dépend, ça cause un risque en termes de centralité.
Et alors, beaucoup de gens dans l'écosystème crypto ont interprété la fermeture de Silicon Valley Bank, Signature et Silvergate comme une attaque. Une attaque, mesdames, messieurs, contre le secteur crypto. Pourquoi, Claire, certains pensent-ils que la fermeture de ces banques serait une attaque contre l'écosystème crypto ?
Alors, ce qui a fait le plus de bruit, c'est les propos de Barney Frank, qui est un ancien régulateur, un ancien membre du Congrès plutôt américain, qui avait notamment beaucoup participé à la réglementation bancaire suite à la crise de 2008. Et il se trouve que Barney Frank, aujourd'hui, siégeait, on ne sait pas trop, à la Silvergate, à la Signature Bank, pardon. Et donc, Barney Frank, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y avait pas de raison objective de mettre en faillite cette banque. Et donc, ce qu'il dit, c'est que la seule véritable raison, en tout cas, alors il n'a évidemment pas de preuves, mais lui, c'est ce qu'il ressent avec son expertise du secteur financier traditionnel. Lui, il ressent que la raison principale, c'est en réalité un signal très négatif des régulateurs sur la crypto, et en tout cas, un manque de confiance des régulateurs dans cette activité crypto des banques. Et ça, c'est d'ailleurs confirmé par un certain nombre d'articles de presse qui, alors, encore une fois, n'ont pas de preuves sérieuses dans la mesure où ils se basent sur des sources anonymes, mais sources qui disent que le régulateur, la FDIC, demande aux racheteurs de ces entreprises-là d'abandonner les activités crypto de ces banques.
Ah bon ?
Et donc on
garde tout sauf leurs activités crypto.
Voilà. Alors encore une fois,
garderait tout sauf
source anonyme. Donc je veux pas ici donner de l'écho à des rumeurs, mais on voit un certain nombre d'articles là-dessus qui laissent penser que le régulateur n'aurait pas confiance, en tout cas dans la pérennité, dans la solidité de ces activités-là.
Bon, ça reste de la rumeur. On n'a rien de plus pour l'instant.
Il faut demander aux journalistes eux-mêmes.
Et qui a progressé cette semaine ? Qui a eu le sourire toute la semaine, mesdames, messieurs ? Ben c'est le Bitcoin. Oui, le Bitcoin est encore plus aujourd'hui, qui a franchi à nouveau la barre des 26 000 dollars. Il a gagné plus de 30% en à peine quelques jours, le Bitcoin. Est-ce que, Owen, vous établissez, vous, un lien entre cette hausse du Bitcoin et les doutes autour du secteur bancaire ?
Très peu de gens sont d'accord là-dessus. Il y a plusieurs raisons et c'est très souvent un amas de raisons qui font qu'il y a une hausse ou qu'il y a une baisse. Quoi qu'il en soit, oui, le côté, les crypto-monnaies ont à la base été créées pour être totalement libres et indépendantes et fonctionner juste sur les utilisateurs qu'elles ont et être hors de ce système bancaire et hors de la finance traditionnelle, notamment avec ce qui s'est passé en 2008 pendant la crise des subprimes. Aujourd'hui, naturellement, quand on commence à avoir des doutes et qu'on voit quelques problèmes dans la finance traditionnelle et dans les banques, ça donne un peu d'énergie aux cryptos. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, la réalité, c'est que les crypto-monnaies, c'est un marché non significatif vis-à-vis de la finance traditionnelle et le monde bancaire. Certains disent, oui, ça y est, c'est l'effondrement des banques aux États-Unis. Si c'est ça qui faisait monter les crypto-monnaies, je parierais plus sur 30% de hausse pour le Bitcoin par jour qu'un 30% global une seule fois. On parlerait de montants qui seraient si gros que ça viendrait bouleverser l'intégralité des crypto-monnaies bien plus fort que ce que Bitcoin a fait. Même s'il a quitté les 19 800 pour toucher 27 000 dollars ce matin. Il y a d'autres raisons, notamment Sisi. Qui ne peut plus, Sisi, le directeur de Binance, qui ne peut plus émettre son stablecoin et qui a annoncé repositionner 1 milliard de dollars de fonds de réserve sur du Bitcoin, de l'Ether et du BNB. Il y a également Fidelity qui annonce son offre d'achat et de vente de crypto-monnaies sans aucune commission, même s'il y a toujours un spread, à plus de 37 millions d'utilisateurs. Donc c'est un signal fort et naturellement ça peut participer à cette hausse. Et il y a naturellement le fait que naturellement on a les taux directeurs qui se calment un petit peu, on a une détente de ces fameux taux, un peu plus de liquidité. Et ben naturellement, une procédure de renflouement, c'est des billets et de la liquidité en plus sur le marché et ça finit par profiter à certains actifs qui en profitaient déjà à l'époque où c'était le cas, notamment le Bitcoin. Donc il y a un ensemble de raisons. Oui. En tout cas, voilà, il est sûr que ce petit doute et ces questions, que ce soit aux États-Unis mais également avec le Crédit Suisse, créent une atmosphère qui encourage certains et se disent « ça fait vraiment longtemps qu'on pense qu'un jour ça arrivera, si ça part maintenant et qu'on n'est pas dessus alors qu'on l'avait vu, ça crée une frustration et je pense que c'est un petit peu de FOMO peut-être aussi là-dessus,
sur le Bitcoin. » Et puis la détente obligataire, vous le disiez, qui a aussi beaucoup aidé les actifs à risquer, le Bitcoin et le Nasdaq. Le Nasdaq a aussi vécu une belle semaine. Et alors vous le disiez, les aides des banques centrales et notamment de la Fed au secteur bancaire vont faire que malgré la réduction du bilan, ces aides vont venir ralourdir à nouveau leur bilan.
Et Tout à fait, on le voit d'ailleurs dans leur balance sheet, ils ont perdu une grosse partie de ce qu'ils étaient en train de récupérer petit à petit au fil de l'eau, quoi.
C'est comme ça, c'est la finance.
C'est la finance.
Les pros des cryptos, c'est une semaine de crypto condensée en 25 minutes. C'est la boîte à condenser le temps. On va parler à présent d'un pas important franchi justement par une banque centrale cette semaine. On parle ici régulièrement des cryptos comme moyen de paiement quasi instantané entre particuliers ou adresses sur la blockchain. Eh bien, une banque centrale promet le même genre d'efficacité, c'est aux États-Unis et c'est la Fed, à nouveau elle, puisque la Fed annonce le lancement clair de FedNow, un nouveau service qui sera disponible l'été prochain. C'est quoi ce service et quelles sont ses promesses ?
C'est une technologie de paiement interbancaire qui a, je résume hein, bien sûr, mais qui a vocation à permettre des paiements instantanés entre établissements financiers, entre banques, et donc qui pourrait se substituer au système SWIFT. Qui, malgré son nom, est en fait un système assez lent et qui demande des délais de traitement entre banques lorsqu'elles veulent s'envoyer de l'argent les unes aux autres. Et donc, cette technologie permettra de moderniser la finance traditionnelle. Alors, c'est pas du tout une technologie basée sur blockchain, hein, ça n'a rien à voir avec les cryptos. Mais pour moi, c'est simplement un nouvel élément, je dirais, dans le paysage des technologies financières qui permet à la finance traditionnelle d'être un peu plus compétitive. C'est vrai qu'on a vu ces dernières années dans la crypto un certain nombre d'applications au monde bancaire qui s'est dit, bah, finalement, si j'essayais d'utiliser la blockchain comme, je sais pas, chambre de compensation interne ou chambre de compensation entre banques pour aller plus vite que le système SWIFT. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on voit que la finance traditionnelle, finalement, se dit, bah non, on peut faire ça autrement que sur blockchain, ce qui est tout à fait vrai d'un point de vue technique. Et donc, on peut proposer des paiements instantanés sans utiliser les technologies liées aux cryptos. Et donc, c'est ce qu'ils font. Ça va probablement peut-être mettre un petit coup d'arrêt à certains projets de blockchain privée entre banques. Néanmoins, ça ne va pas du tout remplacer les cryptos puisqu'on est vraiment sur des propositions de valeur complètement différentes. Hein. Là, on garde une autorité centrale. Alors que dans le monde des cryptos, il y a quand même cette philosophie de décentralisation qui donne une vraie différenciation finalement.
Oui, mais des acteurs du monde traditionnel pourraient quand même voir dans FedNow une alternative aux solutions de paiement via les cryptos. Qu'est-ce qui... Alors, Claire a commencé à en parler, mais qu'est-ce qui, à vos yeux aussi, Owen, différencie FedNow, ce futur service à venir de la Fed, et les solutions de paiement crypto?
Déjà, les solutions de paiement crypto sont pour tout le monde, les particuliers, les entreprises. C'est pas du tout le cas pour FedNow. C'est vraiment interbancaire, c'est-à-dire que ce serait entre la Fed, justement, et les banques commerciales. Et naturellement, on est très loin pour monsieur tout le monde de pouvoir l'utiliser. Ensuite, on n'a pas de détails sur la technologie. Peut-être que ce serait un jour basé sur une technologie cryptographique. On sait juste que ça substitue le réseau SWIFT, mais on n'a pas encore de détails là-dessus. Ce qu'on sait, par contre, c'est que aujourd'hui, il y a de très très lourds process LCBFT, de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. C'est-à-dire que toutes les banques, toutes les institutions, et même la preuve en France avec les PSAN crypto, pour vous dire à quel point ça va loin, toutes ces institutions se doivent de collecter l'identité de la personne qui dépose les fonds, vérifier l'origine de ces fonds, lutter contre le blanchiment d'argent et vérifier tout simplement d'avoir des flux sains. Le problème, c'est que si on commence à imaginer un FedNow qui propose des solutions à monsieur tout le monde, est-ce que la banque centrale, est-ce que les banques centrales sont équipées aujourd'hui pour justement s'occuper du travail qui actuellement était un travail de banque commerciale, était un travail de ces structures qui, elles, vont pouvoir gérer beaucoup plus de transactions et vérifier.
Est-ce qu'elles ont la scalabilité, on appelle ça?
La scalabilité, pour adresser monsieur tout le monde, je ne pense pas. Encore une fois, c'est quelque chose de totalement différent, ça reste intéressant, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui les comparent un peu, parce que c'est le moyen de paiement instantané, qui est quelque chose de nouveau à l'échelle interbancaire, entre guillemets, alors qu'en réalité, c'est totalement commun pour les stablecoins et pour les gens qui s'envoient de la liquidité. Mais c'est totalement différent. Les stablecoins, il y a des réserves qui sont centralisées de façon totalement différente. Les particuliers peuvent les utiliser, alors que FedNow ne sera que pour les institutions. Je pense qu'on est pour l'instant sur quelque chose qui n'est pas vraiment comparable et que c'est vraiment juste l'instantanéité du paiement qui vient faire ces comparaisons rapides.
Et on n'a pas encore parlé dans les pros des cryptos cette semaine de Gary Gensler. C'est Zeus, hein, Gary Gensler. Il règne sur les dieux de la finance traditionnelle comme sur les créatures mortelles de l'écosystème crypto. Gary Gensler, c'est le président de la SEC, le gendarme des marchés américains. Et tel Zeus, il envoie la foudre là où il le juge utile et juste. Et bien ces derniers jours, il s'est à nouveau exprimé en qualifiant certaines cryptos de securities. Le choix, l'usage de ce terme, la qualification de certaines cryptos en securities va sans doute sceller leur destin. Quelle crypto Gary Gensler a-t-il visé? Et Owen, quelles pourraient être pour ces cryptos les conséquences?
C'est assez grave parce que presque toutes. Tout ce qui n'est pas Bitcoin, je vous laisse faire la liste. En fait, tout ce qui est proof of stake, et donc Ether et toutes les autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait déjà eu le début de cette histoire-là quand Kraken s'est vu interdire le fait de proposer des solutions de stacking à ses clients. Là, on n'interdisait pas le stacking, on interdisait la fourniture de services sur le stacking as a service. Le problème, c'est qu'en redéfinissant toutes les crypto-monnaies elles-mêmes en proof of stake comme des securities, les États-Unis se fermeraient à l'entièreté de ces cryptos. Et donc là, catastrophique, autant vous dire que Coinbase pourrait proposer du Bitcoin, et c'est tout. Enfin, autant vous dire que ça tuerait l'activité. Là, ce serait quelque chose de grave. En parallèle de ça, tous les émetteurs de ces crypto-monnaies pourraient se faire attaquer par la Security Exchange Commission comme ayant émis des securities sans droit, sans licence, sans enregistrement. Et donc, à ce moment-là, ça remettrait également tous ceux qui distribuent des services. Ce serait tout simplement un changement de paradigme complet. Ce qui pour moi est impensable aujourd'hui vu l'avancée des États-Unis en matière de crypto, on en parlait la semaine dernière, un projet sur trois est sur le sol américain. Et donc, connaissant les Américains également, ils sont quand même rarement, enfin ils sont pro-business la plupart du temps, là ils ont réussi à prendre un monopole dans un domaine technologique et financier qui va dans la direction qu'ils prennent en général dans le monde de la finance et dans le contrôle qu'ils ont avec le dollar dans le monde. Et là, ce serait faire un pas en arrière, mettre un stop, et là... opportunité pour le marché européen, opportunité énorme, sauf si on décide de faire comme les Américains, ce qui est fort possible parce que c'est des choses qui arrivent réellement. Mais là, ce serait un petit peu contre-productif, je pense, et je pense que s'ils en arrivent là, ce serait vraiment une conviction plus forte qu'une simple interprétation légale, car normalement, il devrait y avoir une réflexion et dire « Ok, on ne doit visiblement pas les catégoriser comme des securities et on ne doit pas essayer de cadrer et d'interpréter la finance cryptographique avec les mêmes normes et les mêmes bases que la finance traditionnelle. »
Mais là, pardonnez-moi le terme, mais l'écosystème, du coup, a les jetons. Enfin...
Alors, l'écosystème, un petit peu. D'ailleurs, en parlant de token, justement, il y a deux choses qui font qu'on hésite. On voit le Bitcoin qui prend beaucoup de valeur et les autres crypto-monnaies en prennent un petit peu, mais moins. D'habitude, c'est l'inverse. Quand Bitcoin prend 1%, Ether prend 3%, ça va beaucoup plus vite. Et là, deux interprétations. Soit c'est parce que Bitcoin est le seul à avoir cette promesse de liberté qui fait que quand on a peur du monde bancaire, c'est sur Bitcoin qu'on mise et sur personne d'autre. Soit... le fait que, au contraire, Bitcoin, c'est peut-être le seul qui est dans cette bulle et qui ne peut pas être interprété comme un security, alors que tous les autres ont au-dessus de la tête. Voilà pourquoi l'Ether prend un petit peu moins de vitesse. Tous les autres ont une épée de Damoclès, mais rappelons que les crypto-monnaies se développeront avec ou sans les États-Unis. C'est-à-dire que c'est eux qui se mettraient en marge de ce marché.
Ouais, mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est cette différence en fait entre les positions des régulateurs américains et des régulateurs européens. Parce qu'en Europe, la philosophie, c'est plutôt de se dire, on va interdire les crypto-monnaies en preuve de travail. Parce qu'elles polluent, parce qu'elles consomment de l'énergie, etc. Aux États-Unis, on se rend compte qu'ils veulent réguler beaucoup plus durement les crypto-monnaies qui sont en preuve d'enjeu. Donc, on se retrouve dans une situation très compliquée parce qu'on voit les États-Unis qui donnent un avenir très prometteur à Bitcoin et qui, finalement, sur tout le reste, veulent s'en séparer, alors qu'en Europe, c'est l'inverse.
On revient à la Grèce antique, là. On a Zeus et puis les différentes cités, le roi Bitcoin et son rival, l'Ethereum, qui tente aussi de monter en puissance, sauf que l'Ethereum pourrait être considéré comme un security. On va suivre tout ça, bien sûr, de très très près. L'Ethereum, dont les développeurs, d'ailleurs, font la grimace, Claire. La mise à jour du réseau Shanghai, qui devait cette mise à jour arriver d'ici avril, aura peut-être quelques soucis ou un certain retard.
Oui, alors c'est pas si inquiétant en réalité, mais pour donner du contexte, quand on fait une mise à jour sur une blockchain, notamment sur Ethereum, on la fait pas directement, on la teste sur ce qu'on appelle des testnets ou des réseaux de tests. Et donc là, on a eu l'exécution de cette mise à jour sur un réseau de test qui s'appelle Gurley. Et sur ce réseau, ce qu'on a vu, donc je rappelle, cette mise à jour a la vocation à permettre à ceux qui avaient stacké leurs ethers dans cet algorithme en preuve d'enjeu de pouvoir les récupérer. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est que les retraits avaient été assurés, mais de manière quand même nettement moins fluide que prévu. En fait, la raison, c'est tout simplement que les validateurs n'avaient pas tous bien mis à jour leurs nœuds, leurs logiciels. Et donc, le résultat, c'est que forcément, ça a retardé l'équipe de développement. En fait, c'est pas inquiétant. Pourquoi ? Parce que les validateurs sur un réseau de test, ils ont pas tellement d'incitation à mettre à jour leurs nœuds, puisque les ethers du réseau de test, par définition, ne sont pas des vrais ethers, donc ne valent rien. Donc, ils sont un peu plus feignants que les validateurs dans la vraie vie sur le vrai réseau. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas, il faut pas s'inquiéter. Tout devrait mieux se passer sur le réseau principal, mais forcément, ça demande un peu plus de temps pour vérifier que tout marche bien.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, les pros des cryptos, chaque vendredi sur BFM Business. Claire Balva, experte crypto indépendante, et Owen Simonin à la tête de Meria et votre chaîne YouTube Asher. On était à 620 000 abonnés la semaine dernière, on y est toujours.
On doit être un petit peu au-dessus.
C'est calme, on va arrondir,
ça
alors.
Progresse. Peut-être que cette semaine, ça va changer avec la hausse des cours.
Merci de nous avoir accompagnés.